je vois le genre. Votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je présume.
Et on faisait une petite partie d'échecs.
On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu ?
Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers ?
Oh, c'est super cool !
C'est peut-être un jeu underground ? Qui l'a développé ?
Drôle de jeu où pour gagner, il ne faut pas jouer.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ludologie, le podcast qui parle du jeu sous toutes ses formes, jeu de rôle, jeu de société, jeu vidéo. Et pour l'été, l'équipe de Ludologie vous propose d'écouter les conférences et autres tables rondes du festival Stunfest qui se déroulait du 18 au 20 mai 2018. Et tout de suite, on écoute tout ça ensemble.
Bonjour à tous. Nous allons donc discuter ce matin de jeux de combat. On va surtout en fait s'appuyer avec Rufio à parler de la base du jeu de combat. On va vraiment parler de tout ce qui va être initiation. Et donc, comme vous pouvez le voir, il y a même des images qui sont projetées derrière nous. Alors, je dis vous qui vous pouvez le voir parce que vous êtes en direct là. Mais la conférence est également enregistrée. Donc, évidemment, vous qui nous écoutez, vous voyez moins bien. Je suis d'accord avec vous. Mais ce qu'on va raconter, je l'espère en tout cas, va être très intéressant. Rufo, tu vas bien ?
Oui, un peu fatigué, comme je t'avais dit, mais ça va le faire.
Mais écoute, moi, je suis en pleine forme puisque j'en suis à mon 58e café. Mm-hmm. Donc, si jamais à un moment donné tu t'endors, je te.
Non,
je
ça
te
va, j'en suis à un Red Bull et un thé.
Tout va bien. Comment est-ce qu'on définit le jeu de combat ? Pourquoi d'ailleurs, pourquoi cette conférence ? C'est quoi la base du truc ? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de définir le jeu de combat déjà ?
Alors, le jeu de combat. En fait, est victime d'un espèce de paradoxe qui fait que quand on commence à jouer au jeu de combat, on ne sait pas du tout dans quoi on va mettre les pieds. Et du coup, quand on ne connaît pas le jeu de combat, on peut comprendre ce qui se passe parce que c'est un côté visuel très prononcé et très logique. Mmh. Mais en même temps, ce qu'il y a derrière est totalement différent de ce qu'on peut voir visuellement. Et donc, il y a ce paradoxe-là dans le jeu de combat, ce qui fait que ça reste, je pense, assez important d'essayer d'expliquer parce que ça prendrait vraiment trop de temps. Là, on n'a que 45 minutes. Il faudrait peut-être 45 minutes tous les jours pendant 6 mois ou un an pour vraiment comprendre ce que peut être, enfin, les choix que peuvent faire un joueur de haut niveau ou pourquoi un joueur est plus fort qu'un autre, etc. Ça prendrait vraiment beaucoup trop de temps. Là, dans cette micro-conf, je vais essayer de vous expliquer pas forcément ce qu'est précisément le jeu de combat, mais en tout cas ce qu'il n'est pas. Ça déjà, c'est plus simple. Et il faut bien comprendre que du coup, à la fin de cette conf, vous ne saurez pas exactement ce que c'est le jeu de combat, et du coup j'en suis un peu désolé.
Au moins on ne vous ment pas, ça c'est important. Voilà.
Oui et non, parce que du coup le titre de la conf c'était Introduction au jeu de combat. Là, le titre de la conf est différent parce que ça faisait écho juste à une vidéo que j'avais fait il y a ça quelques années qui s'appelait « Le jeu de combat expliqué à ta mère ».
Que je conseille pour ceux qui ne l'ont pas vu. Je fais une toute petite parenthèse par rapport à ça. Il y a FQPEH qui est juste derrière, qui a un micro sans fil. Si jamais vous avez envie d'interagir avec nous, parce que c'est le gros avantage qu'on peut avoir aujourd'hui ici, c'est qu'on est en tout petit comité. Donc, n'hésitez pas à lever la main et Aline vous passera le micro. Et comme ça, vous pourrez participer directement en posant vos questions. Et je ferme ma parenthèse. Ouais.
Voilà, la conf n'est pas du tout gravée dans le marbre ou dans quoi que ce soit. Si vous avez envie d'intervenir, vous le faites. En levant la main ou pas, d'ailleurs. Vous pouvez m'interpeller si vous voulez. Pareil pour toi, hein, TMDJC, hein, de toute façon. Vu que j'ai la chance, du coup, de faire cette conf avec toi, on partage un peu cette passion du jeu de combat.
C'est vrai, c'est vrai qu'on en a ça en commun.
J'ai envie de dire, même plus précisément, cette passion de Street Fighter.
on devait garder ça secret.
Donc, avant de commencer exactement sur le jeu de combat, j'aimerais vous parler très vite fait du jeu d'échecs. Et là, je pense qu'à ce moment-là, vous vous dites, oui, bon, il va nous dire que machin, le jeu de combat, c'est comme le jeu d'échecs, blabla, c'est pareil. Non, en fait, c'est pas l'idée. Au contraire, moi, j'aimerais bien revenir sur cette phrase-là que je trouve, qu'on entend partout et que je trouve toujours un peu bizarre. Le jeu de combat, c'est comme le jeu d'échecs. je sais pas, avoir d'autres exemples, la géopolitique pendant la guerre froide, c'est comme un jeu d'échecs, argumenter avec cette personne, c'est comme une partie d'échecs. On reprend souvent cet exemple du jeu d'échecs. Et en fait, c'est un peu bizarre. Pourquoi les jeux d'échecs? Pourquoi associer au jeu d'échecs finalement une activité extrêmement stratégique, extrêmement intellectuelle même? Alors moi, je joue pas aux échecs et je doute pas que ça puisse être une activité stratégique et intellectuelle. Mais pourquoi le jeu d'échecs en particulier, sachant qu'il y a plein d'autres jeux?
Oui, on aurait pu parler du jeu de stratégie,
le Go, le Shogi ou l'Awale.
Oui.
Je sais plus c'est quoi, Awale, le jeu africain. Pourquoi jeu d'échecs? Bah tout simplement, pour une raison toute simple, c'est que c'est culturel, tout simplement. On a dans notre culture, et particulièrement la culture occidentale, cette culture du jeu d'échecs qui passe par le cinéma. Là, on voit par exemple dans le film X-Men 2, Xavier contre Magneto qui joue aux échecs. Ça, c'est une image qu'on va voir dans plusieurs films X-Men, justement, même dans les nouveaux où ils sont jeunes, on les voit souvent jouer aux échecs. C'est juste une façon de montrer que deux personnages sont en même temps antagonistes, en même temps très intelligents, en même temps en guerre d'idéologie ou psychologique ou une guerre mentale. C'est une façon assez classique et même assez cliché en fait de représenter ce genre d'opposition là. On a ça dans pas mal de films et ça date pas d'hier. Là, on a par exemple le Septième Sceau de Bergman de 57. Ou pareil, là, on a un chevalier croisé qui joue contre la mort aux échecs. Donc, on a cette culture-là des échecs en Europe. Et donc, comme je vous disais, c'est culturel. Tout simplement, en fait, on se rend compte que pour certaines pratiques, certaines activités, le culturel l'emporte sur la pratique. Dans le sens où, même si vous n'avez jamais joué aux échecs, même si vous n'y connaissez rien en échecs, vous savez que si on vous met une partie d'échecs devant les yeux, ça va avoir toutes ces images-là en fait qui a derrière. Et ça, c'est assez important. Il y a d'autres pratiques comme ça qui ont un peu ce pouvoir culturel, ce pouvoir significatif. Je pense par exemple au poker. Le poker, par contre, qui a un peu évolué en fait dans la culture,
dans l'imagerie collective, dernièrement, qui soit mise en avant,
très mise en avant. Maintenant, c'est une activité aussi extrêmement psychologique, mentale, où on rentre dans la tête de l'autre. C'est beaucoup de bluff. Alors que avant tout ça, c'était limite une pratique culturellement. Elle était représentée comme une pratique un peu de brigands, de tricheurs. C'était les parties de poker qu'on voyait dans les films de western, etc. Donc c'est quelque chose qui a évolué.
C'est presque devenu shonen maintenant.
Ouais,
t'as le méga joueur qui est capable de lire trois coups d'avance.
Exactement.
Pas loin des échecs finalement.
Et maintenant dans les films, quand quelqu'un joue au poker, souvent c'est quelqu'un qui est fort et c'est quelqu'un qui dans la vie de tous les jours est assez intelligent et ce genre de choses.
Capable de lire le bluff.
Voilà. Donc ce que je vous dis là, ça veut dire je veux vous dire que l'aspect culturel et l'imagerie culturelle qu'on peut avoir d'une pratique l'emporte sur la pratique elle-même. On n'a pas besoin de pratiquer quelque chose pour avoir une imagerie culturelle, comme tu le dis, sur une activité. Et donc pourquoi je vous parle de ça? Parce que le jeu de combat, en fait, c'est tout l'inverse. Si d'un côté de l'éventail de cette imagerie culturelle, on a les échecs, de l'autre côté, à l'opposé, on a le jeu de combat. Pourquoi? Déjà, il y a un souci linguistique. Le jeu de combat s'appelle le jeu de combat. Et même dans d'autres langues, en fait, que ça soit fighting game en anglais ou n'importe, ça s'appelle le jeu de combat. Et on a le jeu d'une part. Le jeu, c'est pas sérieux. Enfin, d'un point de vue culturel, c'est une pratique qu'on fait quand on est occupé à rien d'autre de plus sérieux. C'est quelque chose qu'on fait quand on ne travaille pas. Et le combat, c'est quelque chose de pas moral. Le combat, on a toujours appris que quand on est petit, c'est pas bien de se battre, et c'est vrai. Donc, quand on a une activité qui s'appelle le jeu de combat, forcément, on commence pas bien. Ceux qui ne sont pas au courant de ce qu'est le jeu de combat, forcément, ils ont pas forcément une bonne approche et une bonne vision du truc quand on commence à leur en parler. J'ai envie de dire, si vous êtes parent d'un enfant, vous avez plus envie de dire au boulanger « Moi, mon fils, il est chef de son club d'échecs », plutôt que « Moi, mon fils, il est champion du Stunfest sur Street Fighter 3 ». tout simplement, parce que c'est culturel. Et on a du coup déjà un premier, une première différence qui va s'établir entre les gens qui ne jouent pas aux jeux de combat et les gens qui y jouent. Ce que je vous disais tout à l'heure, même si le jeu de combat a un côté très visuel qui est très clair, deux personnages qui s'opposent, celui qui tape le plus, finalement il va battre l'autre, ça c'est logique. Et puis il va y avoir aussi la vision de celui qui est joueur, qui sait ce qui se passe vraiment derrière tout ce qu'on peut voir ici, derrière tout le visuel. Là, quelqu'un qui ne joue pas au jeu de combat voit juste, alors hormis toutes les barres, etc., voit juste une karatéka qui met un coup de poing sur un boxeur. Il voit du coup la violence des faits, quoi. Deux personnages qui se battent, un jeu vraiment de combat, limite peut-être pour certains une simulation de combat, alors que c'est pas du tout le cas. Dans le jeu de combat, on ne simule pas le combat. Le jeu de combat n'est qu'un thème, exactement comme dans les échecs. Le thème des échecs, c'est la bataille rangée, en fait. C'est la guerre. Mais sauf qu'elle est moins visuelle dans les échecs. Donc ça choque moins. C'est plus acceptable. Et puis on a du coup, à côté de cette vision du néophyte, pour une même image, un même instant, la vision d'un joueur. Donc ça c'était un screenshot de la vidéo dont je vous parlais, que j'avais fait il y a de ça plusieurs années. Alors, là, j'ai mis un peu des informations random, mais qui rentrent en compte avant toute chose pour un joueur. Quand un non-initié voit ça sur son écran, le joueur, lui, voit ça. Le joueur, il en a rien à foutre de savoir que son personnage est en train de cracher du sang ou en train d'avoir une tête emplie de douleur. Il en a rien à foutre de savoir que son personnage est habillé de telle ou telle façon. Lui, ce qu'il perçoit avant tout, c'est le squelette du jeu. Et c'est ce squelette-là, en fait, qui est imperceptible pour celui qui ne joue pas.
Alors, je fais une toute petite parenthèse là-dessus, si tu reviens sur l'image précédente, il y a un truc que Capcom a très très bien réussi par rapport à la concurrence, et c'est certainement pour ça d'ailleurs que les gens en général se souviennent très souvent des matchs qu'ils ont vus sur Street Fighter plus que sur Tekken par exemple, alors que Tekken se vend largement mieux que Street Fighter. On pourra remarquer que le choix graphique de Capcom a été de grossir par exemple les poings ou les pieds des personnages, ce qui est totalement en fait disproportionné par rapport à la réalité. Mais on a une lecture du jeu pour quelqu'un justement qui est non initié, qui est très très simple. On sait exactement où se situent les membres, on sait exactement quelle action est en train d'être menée. Donc même si jamais vous n'avez jamais fait de karaté de votre vie ou de boxe de votre vie, l'imagerie collective dont on parlait tout à l'heure, qui vous permet de savoir que le boxeur c'est celui qui a les gants et que le karatéka c'est celle qui a le kimono, avec les mouvements on va reconnaître facilement les attaques qui sont faites par tel ou tel protagoniste. Et ça c'est vrai que c'est un gros gros plus, une porte d'entrée qui simplifie quand même la lecture du jeu derrière. Et je ferme ma parenthèse.
Et du coup, ça, d'ailleurs, ça fait écho à l'utilisation des gants de boxe en boxe. Parce que si les boxeurs mettent des gants, c'est d'abord, un, pour que ça fasse moins mal, deux, pour que les points soient plus lents, parce que sinon, des points nus, c'est trop rapide et les matchs peuvent se finir trop vite. Ça peut être trop violent, en fait, sans gants de boxe. Et c'est aussi pour que les points soient plus visibles, en fait, pour l'adversaire. Ça permet, du coup, d'avoir des matchs un peu plus intéressants où les personnages, enfin, les personnages,
combattants.
Où les combattants peuvent vraiment esquiver, etc.
Ce qu'ils ont repris dans le MMA, par exemple, où effectivement, on a des gants qui sont beaucoup plus petits, mais qui sont très colorés pour permettre aux gens qui regardent l'action, en fait, de pouvoir comprendre ce qui se passe.
Exactement. Alors, il y a du coup une première étape à faire avant d'expliquer ce qu'est le jeu de combat, c'est qu'il faut d'abord rassurer en fait le public. On peut pas tout de suite dire ce qu'est le jeu de combat sans dire attendez, le jeu de combat c'est pas ça. Le jeu de combat c'est pas de la bagarre, c'est pas de la simulation de combat, c'est pas juste des personnages qui se foutent dessus, c'est pas le plaisir de se foutre sur la gueule. C'est pas ça. Il y a déjà cette étape-là, en plus, à prendre en compte. Et c'est pas forcément le cas pour vous. Vous, c'est un peu différent, parce que vous, vous êtes là de votre plein gré, vous venez à une conférence qui s'appelle Introduction au jeu de combat, donc c'est quelque chose qui, en tout cas, j'espère, vous intéresse un minimum. Donc vous, vous faites déjà la démarche. Donc vous vous dites très certainement, enfin, à mon avis, vous savez déjà que le jeu de combat, c'est pas quelque chose de barbare. Mais pour des personnes qui n'y connaissent rien, il y a déjà cette étape, cette première étape à faire, en fait, qu'il faut prendre en compte. Donc, maintenant qu'on a fait cette longue introduction, qu'est-ce qu'un jeu de combat exactement ? Alors, la réponse dépend... ça dépend à qui on pose la question. Il y a deux façons de répondre à cette question. On peut répondre de façon tout à fait pratique et dire exactement ce qu'est un jeu de combat dans le genre. Le genre jeu vidéo, jeu de combat, qu'est-ce que c'est ? On peut répondre de cette façon-là. Et on peut répondre aussi de la manière... Qu'est-ce qu'un jeu de combat en tant que pratique ? Parce que c'est pas là exactement la même chose.
Et sera rendu en plus là-dessus la culture aussi, parce que si vous posez la question à un Français, un Américain et un Japonais, vous n'aurez pas forcément la même réponse en plus.
Exact. Alors, si on veut dire exactement ce qu'est le genre jeu de combat, il faut d'abord penser à l'histoire du jeu de combat. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même jusque, j'ai envie de dire, au milieu des années 90, le genre jeu de combat était encore assez flou. Aujourd'hui, il l'est encore, d'ailleurs. Mmh. On n'est pas aujourd'hui encore capable de définir à 100% ce qu'est un jeu de combat. Tout le monde ne sera pas d'accord là-dessus. Des joueurs de Smash qui seront pas d'accord avec des joueurs de, je sais pas, Towerfall ou Samurai Gun.
Mais c'était encore plus fou, effectivement,
à l'époque.
Quand on relit la presse d'époque, hein, si jamais voilà, vous avez l'occasion d'aller sur Abandonware, par exemple, c'est très drôle de voir comment les journalistes définissaient à l'époque certains jeux.
Et en gros, à l'époque, début 90, mi-90, le jeu de combat, il prenait en compte uniquement presque le thème, en fait, et pas forcément le gameplay.
La bagarre,
voilà. Quand des gens se tapaient dessus, c'était un jeu de combat. Ce qui est à peu près logique, en fait, finalement. Donc là, j'ai mis l'exemple de Street of Rage sur Mega Drive. Effectivement, ce jeu-là a pu être, par certains journalistes, considéré comme un jeu de combat. Aujourd'hui, on ne le considérait plus comme tel, vu qu'aujourd'hui, en termes de gameplay, en termes de règles de jeu, le jeu de combat est plus précis que ça. Mais à l'époque, on pouvait définir Street of Rage et donc ce qu'on appelle aujourd'hui les beat'em up, donc des jeux dans lesquels des personnages se baladent et combattent des adversaires. On pouvait à l'époque, ou en tout cas c'était le cas, les définir comme des jeux de combat. Mais nous, ce qui nous intéresse du coup, c'est le jeu de combat tel que vous allez pouvoir éventuellement le voir au Stun dans certains tournois, etc. Le jeu de combat qu'on connaît aujourd'hui. Avant de parler de l'histoire du jeu de combat, il faut parler de la préhistoire du jeu de combat, parce qu'il y a une préhistoire et une histoire. Il y a eu une année zéro ou une année 1 du jeu de combat, qui est claire pour tout le monde. Hein. Là, pour le coup, même si aujourd'hui on n'est pas tous d'accord sur la définition du jeu de combat, en tout cas, le jeu de combat moderne est né avec un seul jeu à une année en particulier, on va y revenir tout de suite après. Alors la préhistoire du jeu de combat, ça a été pas mal de jeux un peu, alors j'ai pas envie de dire random, ce serait méchant, mais pas mal de jeux qui ont plus ou moins essayé des choses, qui ont finalement pris le thème du combat juste comme un thème, pas forcément dans l'idée de faire quelque chose et de développer un nouveau genre. Là, par exemple, on a Karate Champ en 1984, où on a deux personnages qui se battent. Alors, Karate Champ est un peu, j'ai envie de dire... Karate Champ est un peu au jeu de combat ce que Track and Field est à l'athlétisme finalement.
C'est très intéressant comme image, ouais. Je trouve. Ah non, je pense qu'il y a même une conférence à faire là-dessus. Bon, je la note celle-là. Alors je souris par rapport à ça parce qu'en fait c'est vrai qu'il y a Karate Champ, c'est un jeu qui a amené beaucoup de choses mais qui finalement n'ont pas été gardées en l'état dans le jeu de combat moderne. Et la particularité de ce jeu, c'est qu'il se joue en fait avec deux sticks. Et donc les coups se faisaient avec un stick et les déplacements se faisaient avec l'autre, ce qui faisait que il y a plein de mécaniques qu'on a retrouvées après dans le jeu de combat moderne, mais pas du tout en fait avec les mêmes manipulations. Mais on a un nombre de coups dans ce jeu qui est juste incroyable, parce qu'à chaque déplacement vous pouviez rajouter donc une direction pour faire un coup, des coups que vous pouviez aller mener jusqu'au point d'impact ou faire des feintes, donc dire non, je me déplace un peu, je lève la jambe, finalement j'arrête, je mets un coup de poing derrière. Donc c'est un jeu qui est d'une rare profondeur, mais qui est très difficile d'accès, parce que déjà, jouer avec deux sticks, c'est pas simple, mais surtout, le jeu ne répond pas aux codes modernes tels qu'on peut les comprendre aujourd'hui.
Donc, 1984, Karate Champ, un des jeux de la préhistoire du jeu de combat. On a ensuite en 85 Yi-Ar Kung Fu. Alors ça, je crois, ça doit être la version NES, celle-ci qui a dû sortir quelques années plus tard.
C'est peut-être le 2, j'ai un doute là.
Non, ça c'est le 1.
C'est le 1.
Je suis
catégorique.
Sûr.
Allez.
Ouais, presque en fait.
Je te fais confiance.
Moi, ouais. Mais je crois que c'est la version NES.
C'est pas la version arcade. En tout cas, non, ça c'est
ça. Ça c'est sûr. Alors Yi-Ar Kung Fu, qui est lui aussi un jeu de combat. Donc sur le thème du jeu de combat, on dirige un personnage qui s'appelle Lee. Qui est un, comment on dit, un kung-fuiste, un pratiquant du kung-fu.
Pratiquant de wushu.
Voilà. Qui va s'opposer à plusieurs adversaires. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui un boss rush, en fait. C'est exactement comme un mode arcade aujourd'hui. Vous battez un adversaire, ensuite c'est au suivant, vous devez le battre pour passer au suivant, etc. etc., etc. C'est un jeu qui ne se jouait pas à deux, hein, je crois. C'était uniquement solo. Donc c'était pensé pour être joué tout seul, et là encore, le jeu de combat, c'est vraiment juste un thème. À la limite, ça aurait pu être de l'escrime, ce jeu. Ça aurait pas changé grand-chose, je pense. À noter quand même que c'est la première apparition d'un personnage féminin dans un jeu de combat, avec Star.
Il y en a même plusieurs.
Hein, non jouable.
Non jouable.
Non jouable, il faudra attendre encore quelques années.
Il y a une deuxième particularité intéressante dans ce jeu, c'est que les personnages que vous allez rencontrer n'auront pas les mêmes patterns. Donc à l'époque, on rencontrait très souvent le même personnage, mais qui n'avait pas le même graphisme. Là, en fait, tous les personnages que vous allez rencontrer n'auront pas les mêmes sauts, n'auront pas les mêmes attaques. Donc on est obligé de s'adapter à ce qu'on va avoir. En fait, on a les premiers match-up quelque part, même si en fait, il n'y a qu'un personnage jouable.
Et puis c'est un peu les prémices de... De la saveur du chara-design, en fait, vraiment de la légende du personnage en soi. Il y a vraiment des personnages qui ont été chara-designés pour être vraiment ces personnages, pour avoir un style particulier. Et aujourd'hui, c'est ce qui va. Aujourd'hui, on va avoir vraiment cette. Cette fascination pour le personnage de jeu de combat. Et je pense que ça a un peu commencé avec Yi-Ar Kung Fu, ouais, avec ce chara-design-là.
Je partage assez cet avis. Ouais.
On a le personnage avec le bâton, on a le personnage qui lance des shurikens, on a vraiment plein de personnages différents qui ont tous, comme tu dis, pas les mêmes sprites, et du coup, tous un peu leur personnalité graphique.
Ouais, c'était une époque où le cinéma, le cinéma d'action en fait, était quand même omniprésent, ouais. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que le jeu vidéo a emprunté au cinéma, et donc aux légendes que pouvait être, justement, tu disais, le personnage avec son bâton. Moi, j'ai vu il n'y a pas longtemps, il était une fois en Chine, j'aimerais bien faire un jeu dessus, bon, j'ai pas la licence, qu'est-ce que je vais faire ? Il y a quand même pas mal de références par rapport à ce cinéma-là.
Alors, je vais essayer d'aller un peu plus vite pour le reste. Barbarian sur micro-ordinateur, moi j'y avais joué sur Amstrad. Là encore, un jeu d'opposition à armes blanches, peut-être un peu, on va dire l'ancêtre de Soul Calibur, peut-être.
Samurai Spirit.
Ouais, un jeu un peu gore où en fait l'idée c'était pas forcément de tuer l'adversaire, mais de le décapiter d'un coup. Et une fois qu'il était décapité, il y avait la tête qui roulait par terre avec un espèce de petit lutin, un petit lutin qui vient ramasser le cadavre et donner un coup de pied sur la tête. Donc peut-être les prémices aussi de la fascination que peut avoir le gore dans le jeu de combat, comme il y aura plus tard avec Mortal Kombat.
Ouais.
Ensuite, 87, toujours, Barbarian, c'était 87. 87, toujours, le premier Street Fighter. Alors, beaucoup de gens ne connaissent pas le premier Street Fighter, n'ont jamais joué au premier Street Fighter, ce qui est normal. Parce que c'est un jeu qui a apporté aussi quelques innovations, mais ça reste quand même rétrospectivement un mauvais jeu, techniquement parlant.
Je peux pas dire le contraire. Moi, c'est un jeu du cœur, c'est un jeu que j'adore. Mais voilà. Mais après, c'est difficile de comparer Street à Street 2, quoi.
Voilà. Mais là, on revient aussi un peu sur. C'est un peu une suite spirituelle à Yi-Ar Kung Fu, en fait. On a un seul personnage jouable qui va faire un boss rush, donc s'opposer à plusieurs personnages qui vont avoir leur style différent et leur chara-design différent. Là, vraiment, Street Fighter 1 pousse vraiment à fond cette fascination du personnage dans son chara-design et dans son style, avec des personnages emblématiques qui vont le rester encore assez longtemps. Bon, là c'est une mauvaise image parce que Retsu il va pas revenir dans Street Fighter, mais on a déjà des Sagat, des Adon, des Idol.
Il y aura peut-être un Street 6, on sait pas.
Moi j'y crois pas, Retsu j'y crois pas. Mais on a déjà beaucoup de personnages de Street qui vont revenir et vont être encore présents. Il y a Sagat qui est annoncé dans Street 5, qui va sortir fin d'année. C'est un personnage qui date de 87 et qui est apparu dans ce jeu-là. Donc là, on va dire, même si Street Fighter n'est pas encore Street Fighter dans son gameplay, il commence à l'être dans sa mythologie avec Street Fighter 1.
Tout en rajoutant quand même que c'est l'apparition des trois niveaux de coups ouais. de puissance, c'est l'apparition du quart du cercle, du dragon. Enfin, il y a quand même pas mal de choses dans Street Fighter. Le Street Fighter 2 ne serait pas ce qu'il est s'il n'y avait évidemment pas eu Street Fighter avant. Ça semble logique quand on le dit, c'est quand même important. Il y a beaucoup de jeux qui ont cassé des codes en passant d'une version à l'autre. Là, la base de Street Fighter 2, on la trouve quand même dans Street Fighter.
On commence à avoir des prémices de...
Tu parlais de préhistoire.
De gameplay,
je trouve que c'est ça.
On commence à avoir des prémices de gameplay dans Street Fighter 1 qu'on va retrouver plus tard, mais c'était des prémices qui étaient tellement peu maîtrisées techniquement que finalement, ils vont être totalement éclipsés par Street Fighter 2 en 1991, l'année 0, l'année 1. À juste titre, tout le monde est d'accord là-dessus. Vous pourrez demander à n'importe quel joueur, que ce soit un joueur de Street, de Guilty, de Mortal Kombat, de n'importe quoi, même de Smash, il vous dira l'année 1 du jeu de combat, c'est Street Fighter 2. Un jeu, alors on va pas, là il faudra une conférence entière pour parler Street Fighter 2.
Je pense que tout le monde a déjà joué Street Fighter 2 ici. Donc
Un jeu miraculeux, voilà, avec des systèmes de jeu, on sait pas où les mecs ont trouvé ça.
C'est l'apparition des persos à charge, c'est le cancel, c'est pour les versions d'après, c'est le reversal. Enfin, il y a tellement de mécaniques. Bah oui, il y a tellement de mécaniques qu'on retrouve dans ce jeu-là que voilà, il faut effectivement une conférence
et qu'on retrouve dans presque tous les jeux d'aujourd'hui en fait. Et c'est ça qui est absolument.
En tout cas, tous les jeux au format gameplay 2D tel qu'on peut le voir ici.
Donc, je passe très vite sur Street Fighter 2. Et donc, après Street Fighter 2, après, dans les années 90, surtout dans les années 90 d'ailleurs, on va avoir énormément de bébés de Street Fighter 2 qui vont être faits par Capcom, donc ceux qui ont fait Street Fighter 2, mais aussi par d'autres boîtes. Ça va être alimenté par la concurrence entre différentes boîtes, ça va être alimenté par la volonté de vouloir faire du neuf. En gros, à partir de Street Fighter 2, on se dit, il y a quand même quelque chose à faire dans ce genre-là. Street Fighter 2 a ouvert une porte gigantesque. Et donc on va avoir dans les années 90 déjà pas mal de jeux qui vont suivre. Donc là par exemple on a la série de jeux de combat Vampire qui a été faite par Capcom. Là aussi il faudra une conférence entière pour décrire vraiment Vampire, mais qui va offrir du coup des nouveaux styles de gameplay avec des jeux plus rapides.
Une conf sur Vampire.
Ce serait intéressant avec un style de jeu un peu plus rapide, plus nerveux. On va avoir ensuite d'autres boîtes qui vont faire leur propre jeu, qui vont s'inspirer des travaux de Capcom. Ici, on a Guilty Gear par Arc System, la saga Guilty Gear qui a été très 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 influencée par justement la saga Vampire. Donc, on va avoir un peu comme ça une arborescence, une espèce de cascade de jeux de combat qui vont tous venir de Street Fighter 2.
Rangés par style à chaque fois, au fur et à mesure.
Avec des fois quelques innovations. Donc là, on a Children of the Atom. C'est bien Children of the Atom, celui-là. J'ai peur d'avoir mis Marvel.
Je te confirme. Au moment où je te le dis, en fait, je suis en train de dire que c'est Marvel Super Heroes. Ouais.
Donc Marvel Super Heroes ou
comme vous pouvez le voir vous qui nous écoutez
Marvel Super Heroes ou Children of the Atom, donc une autre série de jeux où là encore il y aura une conférence entière à faire dessus en termes de chara design etc, de reprise de persos américains et d'influence et de contre-influence, où là on va avoir des nouveaux styles de gameplay un peu plus aériens qui vont donner aujourd'hui des Marvel versus Capcom notamment. Et puis ensuite aujourd'hui on a des jeux comme Dragon Ball FighterZ qui eux-mêmes ont été inspirés de certains jeux comme Marvel, inspirés eux-mêmes de certains jeux. Donc tout en bas de la cascade, tout en bas de la chute, on a ces jeux-là. On a du Guilty, on a Street Fighter 5, on a Dragon Ball FighterZ. Et puis à côté, on a aussi une autre branche qui, alors vraiment une autre branche. Ça reste le même arbre, mais c'est une autre branche. Du jeu de combat 3D qui va avoir ses propres codes, alors avec ici Virtua Fighter qui va ensuite donner d'autres enfants, les Tekken etc, on a les Tekken 7 aujourd'hui, donc tout ça c'est l'histoire du genre qui a évolué, qui vient de Street Fighter 2
Et je fais une toute petite parenthèse par rapport à Tekken 7, où il y a des personnages qui viennent de l'univers 2D qui sont venus se greffer au cast. Alors, on a évidemment Gookie de Street, mais on a également des personnages de Fatal Fury. En fait, on se rend compte que c'est vraiment, finalement, aujourd'hui, alors pour des raisons aussi commerciales, évidentes, mais c'est une grande famille, en fait, de personnages qui ont pour plaisir premier de se mettre sur la tronche.
Alors ça, c'était une façon de répondre à la question « qu'est-ce que le jeu de combat ?» On y répond par l'historique du jeu de combat. On répond à la question « qu'est-ce que le genre jeu de combat ?» Et donc, l'autre façon de répondre à cette question, c'est « qu'est-ce que la pratique du jeu de combat ?» Alors, là, pour répondre à cette question, on est obligé de diviser la carte du monde en deux. Le Japon et le reste du monde, en gros.
C'est ça. Parce que même s'il y a des différences culturelles claires entre les Américains et nous, je t'en rejoins complètement là-dessus.
En termes de jeu de combat, on est tous euro-américains. Il y a vraiment les Occidentaux et les Japonais en termes de pratique du jeu de combat. En France, en Europe, aux États-Unis, en Occident, donc, on a eu un rapport au jeu de combat qui a été assez classique, finalement. C'était un genre comme un autre sur notre Super Nintendo, sur notre PlayStation. On jouait à Street Fighter 2 quand on arrêtait de jouer à Yoshi Island. On jouait à Tekken 3 quand on arrêtait de jouer à FF7, etc. Voilà, c'était un jeu de plus. Si on avait de la chance, on avait un pote à côté qui pouvait jouer avec nous. Mais nous, ça nous dérangeait pas de jouer contre un ordinateur. Voilà, c'était un genre comme un autre, et on a eu quand même quelques illuminés qui ont eu l'idée de faire des compétitions sur ce jeu en Occident, mais c'était quelque chose d'extrêmement, extrêmement niche en Europe, en Occident. C'était pour la plupart des gens juste un genre de jeu vidéo comme un autre, et pour d'autres, c'était une façon de commencer à essayer de savoir qui était le plus fort. Au Japon, c'est pas pareil. Au Japon, le jeu de combat sort en arcade avant de sortir en console. Et les salles d'arcade, c'est une façon de jouer qui est totalement différente. Dans une salle d'arcade, vous mettez une pièce pour jouer. Et si vous ne perdez pas, vous continuez à jouer. Si vous perdez, soit vous remettez une pièce, soit vous laissez votre place. Et dans ce cas-là, c'est pire, parce qu'il faut attendre votre place pour remettre une pièce, etc.
Ça va tellement loin dans cette culture-là que certains éditeurs, comme Capcom, ont fait l'expérience avec Super Street Fighter 2 de linker des bornes entre elles et de prévoir une sorte de mini-tournoi. Et on ne pouvait pas jouer tout le temps. Même quand on avait gagné, au bout d'un moment, en fait, la console disait ben voilà, t'as gagné le tournoi, c'est fini. Et donc, cette culture de la pièce, elle est très importante au Japon. Et c'est le genre de jeu qui n'a pas du tout marché chez eux. Parce qu'il est logique, normalement, qu'une fois qu'on est gagnant, on soit toujours là. Il y a des joueurs japonais qui passaient leur journée à jouer et qui, au bout d'un moment, étaient fatigués, qui finissaient par laisser la place à quelqu'un.
Et donc, j'ai envie de dire, si vous vouliez rentabiliser au maximum votre pièce et donc votre argent, il fallait devenir fort. Il faut ne jamais perdre, en fait. Si vous devenez très fort, vous mettez une seule pièce et vous roulez sur tout le monde et c'est les autres qui c'est les autres qui payent. Alors que en Occident, nous on achetait une cartouche ou une galette et on jouait. Après avoir acheté plein pot notre galette, on jouait autant qu'on veut. Et donc c'était pas grave finalement de perdre contre un ami à nous, contre un adversaire.
Il n'y a pas d'incidence pécuniaire. Voilà. En fait, c'est un peu comme le poker. Si vous jouez, on en revient gratuitement ou en mettant une mise.
Vous jouez pas pareil.
Concrète. Voilà.
Vous jouez pas pareil. Donc c'est ce qu'on appelle, comme tu l'as dit, la culture de la pièce. Et donc ça au Japon, c'est dès le début des jeux de combat, dès Street Fighter 2, dès l'an 0, comme je vous disais, dès le début, il y a cette culture là qui est que le meilleur va pouvoir jouer plus longtemps et surtout, on va se rencontrer dans des lieux dans lesquels on va avoir plein de joueurs différents, avec plein de styles différents, plein de niveaux différents. Et donc, il va y avoir une pratique qui va se mettre en place tout à fait naturellement. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le Japon est toujours en avance parce qu'il a eu deux décennies d'avance en fait, sur nous en pratique du jeu de combat. C'est ce qui fait que ça reste encore les plus forts en termes de jeux de combat, c'est qu'ils ont eu plutôt cette culture de la pièce, cette culture de l'arcade. Et vu que je vous disais que tous les jeux ont finalement les mêmes bases, plus ou moins que Street Fighter, bah forcément, un joueur qui jouait, je pense par exemple à Nuki qui jouait déjà compétitivement à l'époque, bah aujourd'hui, tu le mets sur n'importe quel jeu, il est déjà intestable parce qu'il a déjà ces bases-là. Et du coup, au Japon, ça marchait comme ça. Il y a une culture de la pièce qui est très, très importante, que ça soit dans la façon dont on perçoit le jeu de combat et dans le niveau des joueurs japonais.
Ce que Rufio n'a peut-être pas précisé ici et qui est important que tout le monde comprenne, c'est qu'on parlait tout à l'heure de la culture du jeu vidéo de combat dans le sens où tout était basé à la base sur Street 2, mais ça sous-entend quelque chose d'important, c'est que tout ce que vous avez appris à faire sur un jeu est exploitable sur un autre jeu. Donc c'est vrai que si vous avez été très très bon à Street Fighter 2, quand vous arrivez sur Street Fighter 5 par exemple, il va falloir apprendre Street Fighter 5, mais vous ne partez pas de rien. Tout ce qui est aspect d'habillage visuel, vous le mettez de côté. Il va falloir effectivement recomprendre les timings ou ce genre de choses, mais tout le reste, c'est bon, vous l'avez. Vous partez pas avec rien.
Et donc, aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, c'est différent. Je vous parlais de préhistoire et d'histoire, mais j'ai envie de dire, ça se divise plutôt en deux périodes, mais plutôt en trois. J'ai envie de parler de préhistoire, de premier âge et de deuxième âge. Le premier âge, on l'a passé. C'était donc toutes les années 90, là, avec les exemples que je vous donnais. Et le deuxième âge, selon moi, là, c'est un peu plus personnel, comme je ne sais pas si tu seras d'accord. Selon moi, le deuxième âge du jeu de combat, il a commencé avec Street Fighter 4.
Je suis entièrement d'accord. Et avec l'arrivée vraiment de l'e-sport, en fait.
Avec l'arrivée de l'e-sport, avec l'arrivée pour la plupart des Occidentaux de la possibilité de s'affronter en ligne. Ce qui remplaçait, en fait, l'idée de s'affronter en salle d'arcade pour les Japonais. Avant les matchs en ligne, et quand je dis jeux de combat en ligne, je dis le vrai réseau en ligne, hein, pas celui de PlayStation un peu moisi ou Xbox, où on pouvait jouer hein, de fait à ces jeux-là en ligne, mais c'était tellement de la mauvaise qualité qu'on pouvait pas faire grand-chose. Avec l'arrivée de Street 4, on peut commencer à jouer contre des joueurs, alors pas du monde entier, parce que il y a quand même des limites dans les connexions Internet, mais on peut commencer à jouer avec un peu n'importe quel joueur, pas trop loin de chez nous. Par exemple, nous, en tant que Français, on peut commencer à jouer avec d'autres Français ou d'autres anglais, et donc on commence à voir cette notion de compétition, et donc la pratique du jeu de combat commence à arriver totalement. Elle était déjà là en Occident, mais par des joueurs vraiment très très niches, mais elle commence à arriver totalement en Occident avec Street Fighter 4 et avec, comme tu dis, l'arrivée de l'e-sport, avec les tournois rediffusés sur Twitch, etc. Donc c'est vraiment, moi, ce que j'appelle le deuxième âge du jeu de combat.
Je suis d'accord.
Avec Street Fighter 4.
Toujours avec la culture de la pièce également, parce que vous misez cette fois vos points. Oui. Il y a beaucoup de joueurs qui ne supportaient pas de perdre des points, et beaucoup de rage quit au début, par exemple, qui n'étaient pas punis, parce que voilà, c'est comme si tout d'un coup, en fait, c'était une preuve évidente de votre qualité de joueur. Donc on misait vraiment quelque chose de concret. Alors c'était pas de l'argent au sens littéral du terme, et encore, on pourrait en discuter sur certains jeux, et on pourrait un jour discuter du pay to win, mais vous misez quelque chose, vous n'arrivez pas les mains vides quand vous jouez en ligne.
Alors, ce qui m'amène du coup à ma dernière partie, vachement vite,
oui,
en
oui,
fait.
Ce que j'allais dire, c'est on est déjà sur la fin. On peut légèrement déborder parce qu'on a un quart d'heure de battement, donc on peut grappiller quelques minutes.
Je vais essayer quand même de faire cette dernière partie parce qu'elle est importante. Alors tout ça, voilà, tout ça c'est bien beau. Je vous ai expliqué un peu ce que c'était le jeu de combat dans son genre, dans sa pratique. En tout cas, j'ai essayé. Mais le jeu de combat en soi, enfin, ça répond pas forcément à la question, et c'est normal que vous soyez déçus jusqu'ici. Qu'est-ce que c'est vraiment le jeu de combat? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des joueurs? Qu'est-ce qui se passe dans un jeu de combat? Pourquoi c'est si intéressant? Pourquoi il y a des joueurs qui jouent depuis 20 ans à ce genre de jeu? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des notions de base dans le jeu de combat. On parle de mind game, de combo, tout ça. J'ai envie de dire, c'est secondaire encore. Il y a des notions encore plus basiques que ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le jeu de combat, c'est des possibilités. C'est des possibilités tout le temps, à chaque moment T. C'est la possibilité de faire ou non une action. À la base, c'est ça. Alors, je pourrais pas tout vous expliquer maintenant, surtout là, en 5 minutes. Mais, en gros, le but dans un jeu de combat, c'est avant tout pas de tuer, mais c'est pas de tuer, mais de pas se faire tuer. C'est comme ça qu'on gagne dans un jeu de combat. Et donc, pour pas se faire tuer, il faut faire les bons choix. Et cette notion de choix, elle est extrêmement importante. C'est ce qu'on... La notion de choix, elle va avec une notion qui est selon moi fondamentale, qu'on apprend finalement relativement tard en termes de lexique, mais qui est selon moi fondamentale dans le jeu de combat, c'est la notion de risk and reward. La notion de risk and reward, donc le risque est d'un côté et donc la récompense de l'autre, c'est de savoir pour chaque action et chaque décision que vous allez faire dans un jeu, dans le jeu de combat, est-ce que ça vaut le coup de faire telle ou telle action? On va faire une espèce de d'expérience, pseudo-expérience sociale. Je vais prendre. Je sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre juste à des questions? Oui, non, c'est tout. Vous. Ok. Mettons, je lance une pièce. Vous avez le choix entre pile ou face, donc vous avez une chance sur deux. Et je vous dis, si vous ratez, si vous avez faux. Non, on va dire, si vous gagnez, je vous donne 20 euros. Si vous avez faux, je vous coupe un doigt. Est-ce que vous voulez jouer? Non, bon, vous ne voulez pas jouer. Ben maintenant, on va... maintenant, même question, on va changer un peu les variables. Je lance toujours une pièce. Encore une fois, vous décidez pile ou face. Si vous gagnez, vous gagnez 20 euros. Si vous perdez, je vous mets une pichenette dans l'oreille. Sur l'oreille. C'est dans l'oreille, c'est compliqué.
C'est déjà plus acceptable.
Ok, donc vous êtes plutôt partant. Ouais. D'accord, c'est normal. Maintenant, troisième possibilité. Je lance une pièce. Vous décidez entre pile ou face. Si vous perdez, pareil, je vous coupe un doigt, comme tout à l'heure. Mais si vous gagnez, je vous donne 100 000 euros.
Ça fait cher le dos déjà. Mais,
ouais. Mais on n'est plus hésitant. Déjà, c'est pas clair. On n'est pas dans un choix qui est aussi clair que les deux autres. Et donc le jeu de combat, c'est ça. C'est uniquement des choix qu'on va faire sur différentes variables. C'est justement avec le risk and reward. Mais il y a une autre variable qui rentre en compte, c'est bah, tout simplement le taux de chance de réussir. Donc par exemple, je reprends l'exemple, le premier par exemple. Si vous gagnez, vous gagnez 20 euros. Non, on va en prendre un autre. Le dernier. Si vous gagnez, vous gagnez 100 000 euros. Si vous perdez, je vous coupe un doigt. Mais par contre, vous avez 3 chances sur 4 de gagner. Là, ça tend plutôt vers le oui.
Ça devient tentant.
Du coup, ça devient tentant.
Ça fait vraiment chier quand on perd quand même.
Oui, voilà. ça fait vraiment chier, mais c'est plus tentant. Parce qu'on change encore une variable. Et en fait, tous ces choix avec toutes ces variables, c'est ce qui va caractériser le jeu de combat. Et ce, à chaque moment T. Et quand je dis moment T, c'est peut-être dans certains matchs à haut niveau, vous allez peut-être faire 3 voire 4 fois par seconde ce genre de choix. Le jeu de combat, c'est ça. C'est uniquement ce genre de choix avec différentes variables. Et donc, qu'est-ce qui va caractériser un bon joueur? Qu'est-ce qui va différencier un bon joueur d'un mauvais joueur? C'est non seulement la possibilité de faire les choix les plus optimaux, donc en fonction de la connaissance du jeu, vu qu'il faut connaître le plus possible le jeu pour savoir quels sont les risques, quels sont les rewards, quels sont les taux de chance, etc. Mais aussi, ça va être la capacité qu'un joueur a d'influencer et d'influer surtout sur les choix adverses. Et de faire croire à certains opposants qu'ils ont certains choix préférentiels alors que non.
De
et
brouiller la lecture,
de brouiller la lecture adverse. Et aussi de savoir bien miser sur les choix de l'adversaire. C'est pour ça que pour moi, la notion de base du jeu de combat, ça reste le choix, ça reste la notion de risk and reward. C'est tout ça, en fait, dans le jeu de combat. Ça sert à rien de parler de combo, de zoning, de tout ça sans comprendre ça à la base. Donc, quand vous voyez des joueurs extrêmement forts, ce qu'il faut vous dire, c'est que dans leur cerveau, ça fait tout. Et ils font 50 000 choix par round. Et c'est ce qui les rend, en fait, extrêmement, extrêmement impressionnants en tant que joueurs. Mais c'est quelque chose qu'on voit pas forcément. Et c'est ça, en fait, le piège.
C'est difficile à représenter.
Ouais, c'est difficile à représenter et c'est surtout pas perceptible pour quelqu'un qui ne sait pas vraiment ce que c'est derrière le squelette d'un jeu de combat.
Et c'est ça, le Yomi, justement ?
En partie, alors le Yomi, c'est encore différent.
Ouais.
Les Yomi, en fait, c'est, on va dire, c'est des strates d'influence. En fait, vous pensez que la personne, enfin, vous savez que la personne va faire telle chose, donc vous préparez à ça, mais l'autre personne va se préparer à ce que vous avez préparé, etc., etc., etc. Le Yomi, c'est ça, c'est des strates, en fait,
sachant que dans le Yomi, en fait, il peut se passer plusieurs actions en même temps pour de vrai, parce que par rapport à ce qu'était en train d'expliquer Rufio, il y a plusieurs choix stratégiques évidents qui peuvent être faits. Il y a un personnage qui lance une boule de feu. Est-ce que je vais me protéger? Est-ce que je vais sauter sur place? Est-ce que je vais sauter vers l'adversaire? Est-ce que donc tout ça, c'est plusieurs actions qui peuvent être menées en même temps? Et normalement, le Yomi, c'est effectivement toutes ces strates là, mais c'est qu'est-ce qui se passe si le personnage fait ça ou donc en réaction. Et donc effectivement, ajouter à ça. La qualité d'exécution du joueur et c'est vrai que le jeu de combat a cette particularité, c'est certainement la partie la plus difficile, c'est que pour rentrer dans le jeu de combat, en fait, finalement, il faudrait tout connaître d'un coup, ce qui évidemment est impossible.
Et c'est d'ailleurs pour ça que il faut, quand vous commencez à jouer au jeu de combat, il ne faut jamais dire non, mais je suis trop nul, j'y arrive pas, c'est pas pour moi. C'est, au début, le jeu de combat, c'est pour personne, en fait, en vrai. C'est des notions qui sont tellement, tellement complexes et tellement nombreuses que personne ne peut être fort tout de suite en jouant au jeu de combat. Il y a peut-être certaines personnes qui ont un esprit peut-être un peu plus logique et de déduction ou de compréhension qui vont faire, ils vont décortiquer certains choix et certaines choses dans le jeu. Peut-être ça va leur permettre d'avoir une progression plus rapide, mais en tout cas, quand vous commencez le jeu de combat, vous êtes nul, c'est sûr. Ça, c'est une évidence. Je ne sais pas si on a le temps de conclure sur ce qu'est le jeu de combat aujourd'hui.
Bon, allez, en quelques instants, on essaie de faire un...
Très vite. Aujourd'hui, le jeu de combat se veut beaucoup plus accessible, techniquement parlant.
En termes d'exécution.
Mais uniquement techniquement parlant. Ouais. En fait, le jeu de combat n'a pas évolué dans sa complexité de ce dont je vous parlais, dans les choix, les risk and reward, etc. C'est toujours aussi complexe qu'avant. Tous les jeux sont plus ou moins aussi complexes à ce niveau-là. Il y a des différences en termes ce qu'on appelle d'exécution, c'est-à-dire le passage entre votre cerveau, vos mains et la machine. C'est dans ce sens-là que les jeux de combat deviennent de plus en plus accessibles. C'est de plus en plus facile de faire des combos, de sortir des manipulations, etc. Mais en aucun cas, ça veut dire que le jeu de combat en soi est plus facile aujourd'hui. Et c'est pour ça d'ailleurs que encore aujourd'hui, on retrouve dans le haut du panier, dans les top 4, les top 3, les top 1, toujours les mêmes joueurs qu'il y a encore 10 ans. Bah, tout simplement parce que eux, ils comprennent le jeu de combat mieux que les nouveaux joueurs, parce qu'ils y jouent depuis beaucoup plus longtemps, même si le jeu de combat, comme je vous dis, devient de plus accessible d'un point de vue technique.
Je fais une parenthèse là, très courte. Prenez Dragon Ball Fighters dont on parlait tout à l'heure, qui a amené plein de nouveaux joueurs et c'était fantastique. Mais c'est des joueurs qui n'ont fait que passer, qui sont repartis direct parce que quand ils ont compris la difficulté du ticket d'entrée, en fait, tout simplement pour jouer, ils se sont dit non mais c'est bon quoi, je suis pas venu là pour souffrir, ok.
Oui, c'est ça. Je pense qu'il vaut mieux conclure là-dessus au cas où s'il y a des questions, du coup, parce qu'on est déjà un peu en retard. Du coup, bah, s'il y a des questions.
On a une question là.
Oui, monsieur. Le micro arrive.
Merci pour la conférence. Est-ce que finalement, on parlait de pratique, on n'a pas pu aller très très loin dans tout ça. Moi, je joue pas beaucoup et j'ai pas beaucoup pratiqué non plus les arts martiaux, mais est-ce que c'est pas des pratiques qui peuvent justement se rapprocher? Est-ce qu'on n'est pas plus là que dans le jeu d'échecs ou autre?
Si, totalement. Si, totalement. En fait, ce qui va rapprocher les jeux de combat plus des sports de combat que du jeu d'échecs, c'est la notion temporelle, en fait. C'est que vos choix dans le jeu de combat, ils sont faits en temps réel. Et en même temps que l'adversaire.
Et donc la conséquence arrive évidemment en temps réel. Ouais.
Donc forcément, vous avez la possibilité d'influer sur le rythme adverse. Vous avez toute cette notion de rythme, en fait, qui est très importante. Et qu'on retrouve,
la gestion
du coup,
de l'espace.
La gestion de l'espace aussi, qu'on retrouve aussi dans les sports de combat, évidemment. Donc oui, ça se rapproche plus, à mon sens en tout cas, du sport de combat.
Je partage complètement
cette avis. Du sport de combat que du... que des échecs. Et alors, je sais pas si les escrimes sont, je crois pas que ça soit considéré comme un sport de combat, mais moi je trouve que c'est le sport qui se rapproche le plus, en fait,
du gameplay 2D carrément. Ouais. Ouais. Parce qu'on est sur une ligne, on est sur... de toute façon, vous regardez, je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir de l'escrime à haut niveau, mais on peut lire du Street Fighter derrière, vraiment. Ouais.
En matière de spacing, donc de zoning, de gestion de l'espace, c'est vraiment ce qui s'en rapproche le plus, parce que les deux sports, j'ai du mal avec sportifs, j'ai toujours envie de dire les deux joueurs, les deux sportifs, les deux escrimeurs ont vraiment un énorme champ pour bouger, et du coup ils peuvent vraiment beaucoup plus s'appuyer sur cette technicité de la gestion de l'espace plus que dans n'importe quel autre combat.
Mais ceci dit, si jamais vous prenez d'autres sports de combat et que vous le calquez sur un jeu de combat 3D, en fait vous allez trouver beaucoup de points communs.
Ouais.
Tout à fait.
D'autres questions?
Ouais, c'était plus une observation, avoir votre avis dessus. Parce que vous parliez tout à l'heure du comportement, de l'organisation entre les joueurs qui faisait que quand il y avait une pièce ou quand il y avait des points en jeu, spontanément, on faisait en sorte, ça s'organisait de manière à ce que le gagnant garde la main et que les autres tournent à côté. Dès qu'ils perdent, ils lâchent la main, etc. Mmh. Et en fait, à jouer à plusieurs en coloc ou entre amis et tout, on se rend assez vite compte que malgré le fait qu'il n'y ait pas de récompense, spontanément, c'est comme ça que ça s'organise toujours.
C'est une culture, vraiment.
Et alors la question qui va derrière, c'est d'après vous, d'où vient la culture ? Est-ce que ça a rapport à l'honneur ? Est-ce que ça a rapport à le rapport à la victoire, à la culture de la gagne ? Est-ce que, enfin voilà, d'après vous, d'où est-ce que ça vient tout ça ?
Alors je sais pas. Le fait que le gagnant reste, en fait.
Ouais, je parlerai pas pour les. Là, on parlait des Occidentaux. Je sais pas si ça se fait pareil aux États-Unis. Là, j'ai pas de réponse là-dessus. Mais en tout cas, chez nous, en France, on a quand même une culture qui où on a beaucoup fantasmé le Japon. En France, on lit beaucoup de mangas, on regarde beaucoup d'animations. Il y a beaucoup de Français qui parlent japonais aujourd'hui parce que c'est une culture qui nous fascine pour de multiples raisons. Et je pense que vraiment la culture de la pièce. À mon sens, hein, pour moi, elle vient du Japon. Moi, j'ai toujours joué avec des joueurs qui faisaient référence à ça. C'est des choses qu'on entendait très souvent. C'est mon point de vue, mais.
Alors moi, d'un point de vue de joueur, je préfère ce format-là. Pas parce que si je gagne, je reste, mais parce que si je perds, j'ai l'occasion de me rebattre contre celui qui a gagné. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant en tant que joueur pour mon développement de joueur, en fait. Si on fait un format où c'est le perdant qui reste, bah, tout le monde va lui rouler dessus et ce sera intéressant que pour le perdant, en fait.
Bonjour, je suis sac de frappe. Ouais, mais je t'en prie, assieds-toi.
Vas-y, tu vas passer un très bon moment. Je trouve ça plus intéressant pour le développement des joueurs, en fait, que ça soit le gagnant qui reste et qui, du coup, dans les jeux de combat, on apprend beaucoup plus de ses échecs que. Comme dans la vraie vie, on apprend beaucoup plus de ses échecs que de ses victoires. Du coup, pour le développement des joueurs, pour l'apprentissage, je trouve ça plus intéressant comme format.
Si je peux me permettre, justement, j'en profite puisque j'ai le micro. En fait, en baby-foot, dans les cafés, ouais. Ça se fait aussi hein, de mettre une pièce en fait, pour reprendre la gagne.
D'accord.
Et c'est vrai que c'est vraiment un challenge. En fait, forcément, personne n'aurait envie de jouer contre le perdant.
Oui, voilà.
Faut vraiment
c'est une culture arcade,
voilà,
tu veux dire.
On a envie de. Bah, en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les bars depuis très longtemps. Quoi.
Merci beaucoup. Voilà. Ouais. Bon, bah on va devoir conclure. On est désolé parce qu'on aurait aimé pouvoir en discuter même plus longuement. On est très très content que vous soyez venu nous voir, ce qui nous poussera certainement à reproduire cette expérience. Merci beaucoup et puis bah, à très
merci
bientôt.
À vous. Merci.
Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. C'était une conférence ou une table ronde qui se déroulait dans le cadre du Stunfest le 18, 19 et 20 mai 2018. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast de Ludologie.